15 minutes, on a dit. Vous avez bien préparé,
Donc, bonjour à tous, je suis Patia, je présente le projet AGKO. C'est un travail commun entre le CIRED, le PREG et le LMD. Donc, le temps d'une présentation, on va voyager plus au sud, on va se déplacer vers l'Afrique du Sud. L'objectif d'AGKO, c'est de pouvoir évaluer les coûts et les bénéfices liés à l'adaptation au changement climatique. On s'intéresse tout en particulier à deux secteurs très importants, notamment l'agriculture. L'agriculture doit faire face à plusieurs challenges, notamment nourrir une population en expansion, mais en même temps, tout en utilisant une aire, tout en utilisant le sol assez limité par rapport à d'autres activités en concurrence. En même temps, l'agriculture est très dépendante d'un climat qui est déjà très variable dans certains pays, et cette variabilité risque d'augmenter sous changement climatique, ce qui peut conduire à une variabilité aussi de la ressource. Et donc, cette variabilité peut être très importante pour l'agriculture mondiale. Donc, dans AGKO, on voudrait bien étudier l'adaptation de l'agriculture au changement climatique, la valorisation des différentes activités, car si on considère que la ressource pourrait être limitée sous changement climatique, on pourrait être amené à allouer la ressource en eau à la demande, à l'activité à laquelle on alloue la valeur la plus importante. Et par la suite, utiliser les infrastructures existantes, les infrastructures hydrauliques, notamment les barrages réservoirs, dès aujourd'hui très, très présents dans diverses régions du monde, pour pouvoir optimiser leur opération et pouvoir allouer au mieux la ressource en eau. Donc, pourquoi s'intéresser à l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud représente un cas très intéressant parce que c'est un pays qui se divise en gros en plusieurs zones climatiques. Majoritairement, c'est un pays essentiellement aride, mais on trouve un contraste très important entre l'ouest du pays, où on a surtout une zone plutôt un climat plutôt désertique, et plutôt le côté est, où on a un climat plutôt subhumide. En moyenne, le pays reçoit 500 mm par an, mais la distribution de cette précipitation est très variable dans l'espace et dans le temps. À l'exception de la province West Cape, où là on a un climat plutôt du type méditerranéen avec des précipitations surtout en hiver, le pays reçoit en général les précipitations surtout en été. Le débit en annuel, le débit du pays s'élève à peu près à 49 000 millions de mètres cubes par an, mais cette eau disponible est réduite à cause des taux très élevé d'évaporation, ce qui fait que la ressource en eau disponible pour les différentes demandes, pour la régulation par le biais des barrages réservoirs, est encore plus limitée. L'eau souterraine, l'eau disponible souterraine pour le pays est encore plus limitée en raison de la géologie du pays, et elle est essentiellement utilisée dans le ouest du pays, où là on a des rivières qui ne sont pas pérennes. Donc l'eau souterraine constitue une source très importante pour l'ouest du pays. Ce qui est important de retenir pour le pays, c'est qu'on a une ressource très variable dans l'espace et dans le temps. Quand on étudie un peu la loi sud-africaine liée à la gestion de la ressource en eau, c'est très intéressant de voir un peu l'évolution de la mentalité envers la ressource en eau. Donc, avec le premier Water Act, on avait plutôt une appartenance de la ressource en eau aux détenteurs de la terre. Par la suite, avec le deuxième Water Act, on a eu un fort accent mis sur la priorité de l'utilisation de l'eau pour l'irrigation. Et aujourd'hui, on arrive à un Water Act qui donne plus un accent à la nationalisation de la ressource, à la gestion de la ressource au niveau du pays, et aussi à une gestion intégrée de la ressource, donc offre et demande ensemble, et avec un fort accent mis sur la gestion de la demande. C'est intéressant de voir que c'est essentiellement les ressources en eau en surface qui sont utilisées pour le pays. Et d'ailleurs, l'Afrique du Sud constitue le premier pays en termes de nombre de réservoirs pour le continent africain. Et encore, c'est très important de noter que même si l'Afrique du Sud occupe la première place en termes de nombre de barrages, il y a encore un, un potentiel en surface, en eau en surface, qui n'est pas encore utilisé. Donc il y a encore beaucoup de marge pour la construction de nouvelles infrastructures hydrauliques. C'est très intéressant et on doit mettre un peu l'accent sur le fait que la localisation des activités et la localisation des ressources ne coïncident pas en Afrique du Sud. Typiquement, à la province Crocodile West, on a les activités qui contribuent le plus au PIB du pays, alors que la ressource en eau disponible est la moindre, la minimum par rapport à la totalité du pays. Et d'un autre côté, diamétriquement opposant, on trouve la région de Mvitu, où là, on a le minimum de la contribution à la richesse nationale, mais on a le maximum de la ressource en eau disponible. Donc, en Afrique du Sud, les transferts constituent un élément très important pour le profil hydrique du pays. Donc c'est aussi très important de parler un peu de l'activité essentielle, des différentes activités essentielles du pays. On parle d'un pays de 45 millions d'habitants, plus de la moitié c'est essentiellement une population rurale. L'économie du pays est essentiellement basée sur la manufacture, l'activité minière, mais l'agriculture occupe à peu près 4% du PIB et c'est bien sûr représente la demande la plus importante en eau. On est à peu près au niveau national à 60 à 70% de la demande en eau totale. Donc on voit un pays qui a une ressource très variable dans l'espace et dans le temps, et un pays qui est très dépendant des réservoirs, des transferts. Donc on peut imaginer que le changement climatique pourrait constituer une pression supplémentaire pour cette ressource en eau très variable dès à présent. Et d'ailleurs, dans le rapport Stern, on peut voir, c'est bien souligné le fait que si on a ce changement climatique, on pourrait avoir une augmentation de à peu près 150 à 300 millions d'habitants sous stress hydrique sur la planète, et selon le rapport Stern, l'essentiel de cette population serait localisée en Afrique du Sud. Dans le même rapport, on peut voir le fait que dans ce rapport, l'accent est mis sur le fait que le changement climatique, l'Afrique du Sud serait la zone à laquelle la première zone au niveau mondial où la production agricole devrait s'arrêter dans plusieurs zones du pays à cause de cette sécheresse accrue du changement climatique. Si on peut donner quelques chiffres sur le changement climatique, selon le rapport de Kicker 2000, la précipitation, déjà pour la précipitation, les différents GCM ne sont pas tout à fait en accord, mais on voit à peu près une diminution de 5 à 10% des précipitations. Une diminution du débit de l'ordre de 10% pour le pays à l'horizon 2015. Et c'est très, très intéressant de voir que dans les différents rapports, il y a l'accent est mis sur l'adaptation et notamment sur la gestion de la ressource en eau par le biais de l'optimisation des infrastructures hydrauliques. Donc ici, on voudrait vous présenter le modèle Odyssia qui va essayer de rassembler les différents travaux faits durant ce projet AGKO. Donc l'objectif d'Odyssia, c'est d'être un modèle générique, donc potentiellement appliqué dans différentes régions du monde, donc dans notre cas l'Afrique du Sud. Le challenge auquel Odyssia a voulu répondre, c'est de pouvoir concilier deux échelles, donc l'échelle globale où on a l'essentiel des changements globaux, du changement climatique notamment, des changements socio-économiques, mais aussi de représenter ce qui se passe au niveau du bassin versant, parce que c'est là où on a la ressource en eau, c'est là où on a les différentes demandes, et c'est là où on doit prendre des décisions pour la planification de la ressource. Dans notre cas, ce qui est très intéressant avec l'Afrique du Sud, c'est qu'on a des données très détaillées pour le pays, notamment on a une base de données de plus de 4000 réservoirs pour le pays, donc ce qui nous permet d'avoir une représentation assez fine de l'infrastructure hydraulique du pays. Et aussi, on détient une base, le South Africa Land Cover, donc une base très détaillée qui nous donne les différents aires irriguées du pays. L'objectif donc avec ce modèle, c'est de pouvoir reconstruire au niveau du bassin versant les réseaux de réservoirs et représenter leur opération coordonnée. La première étape d'Odyssia, c'est de pouvoir donc justement en utilisant la base de données des réservoirs et le modèle de terrain hydro-ACA, de pouvoir reconstruire les réseaux de barrages, une information qui n'est pas disponible à l'échelle globale, il faut bien noter ça. Par la suite, dans notre cas, Orchidée, La modélisation de la demande en eau d'irrigation d'orchidées est bien remplacer le module existant, donc qui est plutôt un modèle qui se rapproche du modèle de CIBER, donc Global Irrigation Model. Et aussi, Orchidée nous sert à nous donner l'inflow, donc le débit entrant des réservoirs. Par la suite, Odyssia nous permet de reconstruire aussi les liens entre offre et demande, une autre information qui n'est pas disponible à l'échelle globale, et à la fin, elle nous permet de calculer, de représenter l'opération coordonnée des réservoirs. Donc ici, on peut voir Orchidée, donc on a pris les sorties d'Orchidée du modèle du projet Watch. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a, on utilise les données de réanalyse ERA40, il y a quelques traitements de données, et pour le changement climatique, le scénario A2 force les trois modèles IPSL, ICAM, CNRM. Et les sorties de ces modèles sont utilisées pour forcer Orchidée. Donc voilà le schéma d'irrigation dans ces schémas orchidées. C'est intéressant de dire que l'irrigation est calculée par point de grille, qu'à peu près 13 types de couverture de sol sont représentés par ce schéma, et que l'irrigation est satisfaite en priorité par les réservoirs et les rivières, ensuite par l'eau souterraine peu profonde, et à la fin par l'eau souterraine très profonde. Donc l'irrigation est calculée par point de grille en utilisant les surfaces irriguées données par CIBER-DEDOM et représente donc la différence entre la transpiration potentielle et l'infiltration. Et pour calculer l'eau qui est donnée pour l'irrigation, on utilise la valeur minimum entre l'eau disponible au différent volume et la demande des plantes. Avec ce schéma, c'est juste pour vous montrer le type de résultat que vous pouvez obtenir avec Odyssia. Donc Odyssia, ici on a fait une validation en Afrique du Nord, notamment en Algérie. On a utilisé des données disponibles à l'échelle globale, notamment des données par le ministère des ressources en eau en Algérie, sur les réseaux et sur les liens entre les zones d'irrigation et les réservoirs. On a pu reconstruire 13 réseaux de réservoirs pour le pays, avec les points rouges où vous pouvez voir les points d'irrigation, avec les triangles, donc les réservoirs. Et ici, c'est juste pour vous montrer le type de résultat qu'on obtient. En général, Odyssia arrive à reproduire les liens donnés par, notamment par le ministère, mais il y a une tendance de surassociation. Et il faut bien sûr noter qu'il y a quelques problèmes, notamment de mauvaises localisations. Ici, les barrages ont été localisés en utilisant la base AquaSat. Il faut aussi noter que, simplement pour dire que dans la reconstruction des liens, Odyssia a deux étapes. Premièrement, on définit des liens potentiels en essayant de minimiser, de pénaliser les mouvements non gravitaires. Et par la suite, on définit les réseaux finaux en évaluant l'équilibre entre l'offre et la demande. Ici, c'est juste pour montrer un peu un aperçu du comment l'opération coordonnée des réservoirs est représentée. Donc, on utilise des règles qu'on peut trouver dans la littérature pour les réservoirs en série et en parallèle. Et ces règles sont généralisées afin de pouvoir satisfaire en priorité les demandes qui sont associées à chaque réservoir. Donc ici, vous pouvez voir, juste pour montrer, pour parler un peu des données, on a l'occasion d'avoir une base très détaillée sur les points d'irrigation pour l'Afrique du Sud. Donc ça, c'est un avantage qu'on peut-être jusqu'à présent, on n'a pas identifié pour d'autres régions. Donc on utilise le South Africa Land Cover qui nous donne une estimation d'à peu près de l'ordre de 1 500 hectares de zones irriguées sur le pays. Ici, juste un aperçu de la base de données des réservoirs données pour l'Afrique du Sud. Donc ça, c'est un avantage très important parce qu'on a une base de données qui nous donne plus de 4000 réservoirs avec la localisation exacte. Et juste là, c'est le résumé d'Odyssia avec la reconstruction des réseaux, le calcul de la demande en irrigation par orchidée, quoi d'autre ? Le calcul du runoff en utilisant aussi Orchidée, par la suite la reconstruction des liens offre-demande et enfin la représentation de l'opération coordonnée des réservoirs. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.
Vous avez 5 minutes de questions. Donc, Benjamin et... Excusez-moi.
Patia.
Je n'ai pas encore mémorisé. Oui, le projet Mekao, au départ, est sur l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous allez passer de ce que vous aurez testé sur l'Afrique du Sud pour l'Afrique de l'Ouest?
Je dirais déjà qu'un élément... Je vais répondre, je sais pas. Ah. Ah. Donc, je pourrais dire qu'un élément important du fait de travailler sur l'Afrique du Sud, c'est, j'insiste sur ce point, c'est justement la meilleure disponibilité des données. On a l'occasion d'avoir des données beaucoup plus détaillées. J'insiste sur les barrages, peut-être, parce que c'est quand même un élément important pour pouvoir appliquer au DCA. Donc, les 4000 réservoirs nous permettent d'avoir une meilleure représentation donc, du profil hydrique du pays. Nous, ça nous permet de reconstruire les réseaux d'une manière plus réaliste. Donc ça, c'est un point très important. Pour l'Afrique de l'Ouest, je pense que pour les réservoirs, jusqu'à présent, on pourrait avoir comme base de données disponibles Aquastat et iCold, mais c'est un excellent point de référence. D'ailleurs, on l'a utilisé pour l'Afrique du Nord, mais ça nous aiderait... Comment dire, ces bases de données sont assez limitées. Donc, peut-être dans la représentation des réseaux, on serait beaucoup plus. Ça serait pas très réaliste. Maintenant, ça nous donne le temps, peut nous donner l'occasion de tomber sur une base de données beaucoup plus détaillée, avoir des liens peut-être avec le ministère des différents pays pour avoir une meilleure représentation des réseaux. Sinon, jusqu'à présent, on a Aquastat et iCold et on peut représenter. Si je ne me trompe pas, à peu près une centaine de réservoirs. Et voilà, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'avoir des liens avec des ministères pour avoir des bases de données plus détaillées.
Oui, alors moi j'avais gardé, en fait c'était une question pour Benjamin. Oui. Parce que, bon... Oui, je voulais... Oui, c'est bien que vous soyez tous les deux. Donc en fait, on te dit que tu as été surpris effectivement par la forte dépendance à la température plus qu'à la précipitation. Finalement, enfin, le contrôle par la température était un peu difficile dans le résultat des pluies. Mais est-ce que, c'est le modèle SARA qui contient ce contrôle-là? Alors, tu montres après effectivement que à la fin que. C'est pas que le modèle SARA, puisqu'il y a quand même pas mal d'études qui ont été faites dans ce domaine-là, mais et qu'il est probable que en fait tous les modèles aient un peu ce. Enfin, ce que je me demande, c'est finalement, est-ce que ça n'appelle pas à regarder, plutôt que d'appliquer tout de suite à une grande région, voire l'Afrique, voire le monde, c'est un peu de l'Ouest, mais. Est-ce que ça n'appelle pas à utiliser ces modèles d'impact d'abord dans un cadre contrôlé en entrée qui soit pas 2D mais 0D quoi, et à faire des intercomparaisons de ces modèles d'impact? Alors ça existe peut-être déjà et peut-être que c'est, j'enfonce une porte ouverte, mais probablement j'essaie.
Non, mais en fait ce que tu dis c'est vraiment l'évolution maintenant des impacts, enfin de la comité des impacts évolue maintenant vers ça. En fait, tout le monde a commencé à faire comme on a tous évolué en même temps vers donc forcer des modèles d'impact avec des scénarios climatiques. Et puis, on s'est tous aperçu que maintenant, on arrivait aussi à des limites sur des choses qu'on ne pouvait pas forcément bien dire avec nos modèles, ou des résultats où on avait du mal à les comparer avec d'autres. Alors que la communauté du climat, eux, ils étaient quand même bien plus avancés sur l'utilisation multimodèle, sur l'incertitude d'ensemble. Donc on s'est, enfin la communauté des impacts, en tout cas au moins sur l'agriculture, on s'est aperçu qu'on avait un retard là-dessus. Et puis surtout il y avait des incertitudes sur des processus comme tu dis, sur l'évolution de la température. On était étonnés, donc on a été voir chez les voisins s'ils avaient les mêmes résultats. Et puis même sur quelle fiabilité qu'on pourrait avoir avec notre modèle quand on augmente plus 6 degrés, ce qui est quand même énorme quoi, par rapport à nos conditions actuelles. En fait, les modèles ont été calibrés pour des conditions actuelles. Est-ce que la calibration de modèles de processus, elle marche aussi dans le futur, c'est pas du tout évident. Quoi. Et donc on est tous un peu revenus en arrière vers essayer de comprendre un peu plus le détail des modèles, de refaire des expériences en champ, par exemple en augmentant la température. Et il y a un nouveau projet maintenant international qui s'est monté un petit peu à l'image de CENIP, qui s'appelle AGMIP. Donc, c'est sur l'agriculture en fait, et c'est l'intercomparaison de modèles agronomiques avec différents scénarios de changement climatique. Donc on va tous envoyer nos données à certaines personnes sur certaines cultures ou certaines régions, et puis ils vont, chaque personne va calibrer son modèle sur une région donnée, et on va tous faire des intercomparaisons avec des différents modèles de croissance de plantes pour maintenant avoir cette incertitude justement sur les modèles agronomiques. Et par contre, on a un retard. Le projet AGMIP démarre juste maintenant. Quoi. Donc on a quand même un gros retard par rapport à la communauté CD. Mais enfin, comme tu dis, c'est l'évolution de la communauté.
This is actually
I'm going to speak
in English. More like a comment than a question. Just a note of caution about looking to the past for solutions and adaptation strategies, as you were referring to at the end of your talk, because adaptation is not just a question of technology, but it happens in context, and the context nowadays and in the future is going to be very different from what worked in the past in terms of population needs, for cash needs of rural population, environmental conditions. This is one issue. The other issue is adaptation at one level, at one scale, or in one sector, or for one social group, is may result in maladaptation for others. Landscape scale, for instance, if everybody going to cultivate the buffon or expand agriculture, that has implication for pastoralists or for women. So these so contradictions need to be taken into account.
Bon, je suggère qu'on aille. Là, c'était un commentaire. Hein. Bon. Nous sommes beaucoup à faire aussi. Je suggère qu'on aille prendre le café. On a 20 minutes. Et là, vous pouvez continuer à parler avec les différents orateurs. Donc, vous avez vu dans le programme qu'on a ménagé tous ces moments où on va parler pour justement que tout le monde interagisse et pas qu'on soit seulement en plénière comme ça. Je dis 20 minutes pour que ça, dans une demi-heure on soit tous assis.
Non. Je pense que je suis pas capable de mentir sur 5 minutes.
Alors qu'est-ce qu'on fait là? On laisse les
La pauvre Clotilde, on n'a pas la laisse. Ouais. Je vais voir à Clotilde si on peut fermer en haut. Parce que là c'est fermé, donc il y a une porte qui est fermée, donc il n'y a pas de soucis.
Les orateurs de la deuxième période, merci de mettre vos présentations dès maintenant.
Aux ordres. Oui, parce qu'on perd vite. 5 minutes ou 5 minutes.
Oui, On va essayer de faire l'Assemblée Générale, on voudrait la faire avec avec tous les thésards en fait, enfin avec autour de ce qu'il y a pas mal de thésards. Écoute, je vais me faire juste. C'est toi qui en premier.
C'est bien ce que.
Oui, attends, je vais te passer, mais alors là, moi, il est